question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Bonjour à tous et bienvenue. Le 22 juin 1633, le savant florentin Galileo Galilei abjure devant l'Inquisition sa théorie du mouvement de la Terre. Né à Pise en 1564, Galilée s'est rallié à l'héliocentrisme qu'avait défendu Copernic un siècle plus tôt. En braquant sa lunette vers le ciel, il comprend que l'homme n'est pas au centre de l'univers. C'est un véritable changement de paradigme, une vision du monde inacceptable pour l'Église qui le condamne et l'assigne à résidence jusqu'à sa mort en 1642. L'histoire et la philosophie des sciences ont fait de Galilée la figure héroïque de la raison contre l'obscurantisme. Pourquoi la légende nuit-elle à la compréhension de son œuvre ? Comment regarder dans toute sa complexité la vie du scientifique, de l'enseignant et de l'homme de cour ? Quel est le point de vue de Bertolt Brecht sur le savant dans sa célèbre pièce « La vie de Galilée » ? Autour de la question « Pourquoi le mythe Galilée ?» La réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Jean-François Civadier.
Bonjour.
Vous mettez en scène La vie de Galilée de Bertolt Brecht au théâtre Montfort jusqu'au 21 juin. Il s'agit d'une reprise puisque ce spectacle a été créé en 2002 puis joué de nouveau au Festival d'Avignon en 2005. Vous l'avez joué combien de fois ?
Je saurais pas dire, je pense qu'on approche les 200 facilement, mais je sais pas exactement.
Et c'est un beau succès. Bonjour Fabien Charex.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en philosophie à Paris-Sorbonne et vous avez publié au PUF Le mythe Galilée, un ouvrage qui tente précisément de déconstruire le mythe. Écoutons pour commencer un premier extrait de votre spectacle, Jean-François Civadier, avec Nicolas Bouchaud dans le rôle de Galilée.
Je ne suis pas aussi savantissime que ces messieurs de la faculté de philosophie. Je suis bête. Je ne comprends rien à rien. Je suis donc forcé de boucher les trous de mon savoir. Et comment puis-je avancer si je suis forcé pour faire marcher mon ménage d'inculquer au premier imbécile venu qui peut se le payer que les parallèles se coupent en infini ?
N'oubliez pas que notre République ne paie peut-être pas autant que paient certains princes, mais qu'elle garantit la liberté de la recherche.
Protéger la liberté de penser est pour vous une bonne affaire. En rappelant qu'ailleurs l'Inquisition règne et brûle, vous obtenez ici à bon marché de bons professeurs. Vous vous dédommagez de cette protection contre l'Inquisition en payant les salaires les plus bas.
À quoi vous servirait-il d'avoir on ne sait quel temps libre pour la recherche si un quelconque moine inculte de l'Inquisition pouvait tout simplement interdire vos pensées ?
Et à quoi sert une libre recherche sans temps libre pour chercher ? Peut-être pourriez-vous montrer un jour à ces messieurs de la Signoria mes études sur la loi de la chute des corps et leur demander si cela ne vaut pas quelques études plus. Ah,
cela vaut infiniment plus.
Non, pas infiniment plus, mais 500 études plus.
Plus de temps et d'argent pour la recherche, Jean-François Civadier, on se croirait aujourd'hui, en fait, hein, quand on entend cet extrait. Comment Bertolt Brecht s'empare-t-il de cette figure de Galilée ? En réalité, il a écrit 3 versions de la pièce.
D'abord, je crois que c'est vraiment une pièce qui parle de Brecht lui-même, de son rapport au théâtre, de sa vie dans l'art. Dans la pièce « La vie de Galilée », on peut remplacer le mot « science » par « théâtre ». On arrive à un résultat extraordinaire quand, à la fin, voilà, il avoue que son combat pour la science a échoué d'une certaine manière puisqu'il a, en se rétractant, il a lâché le peuple. On pourrait entendre les préoccupations de Brecht, l'ambiguïté de Brecht dans son rapport au pouvoir, son rapport au peuple pour lequel il écrivait son théâtre. Et donc voilà, il se projette tout entier dans cette question de Galilée. Il l'a même évoqué dans la pièce Homme pour homme. Il projetait d'écrire une pièce sur Einstein après La vie de Galilée. Il était vraiment obsédé par cette figure.
Puisque donc il commence à l'écrire en 1938,
oui,
il est en exil. Après, il écrit une deuxième version pour les Américains, voilà, avec Charles Laughton et Joseph Losey.
Une version donc danoise en 1938 qui s'appelait La Terre tourne, je crois, où il fait vraiment de Galilée un héros qui a réussi par la ruse à contrecarrer le pouvoir en faisant semblant de se rétracter pour pouvoir écrire en cachette les Discorsi. Donc il apparaît vraiment comme un comme un héros, et la pièce est un peu comme un message destiné aux savants et aux intellectuels qui sont restés en Allemagne, qui pourraient être tentés d'avoir des rapports plus qu'ambigus avec le pouvoir nazi. Et puis en 45, donc il est en train de réécrire la pièce aux États-Unis avec Charlton, et en cela c'est vraiment une collaboration entre un acteur et un auteur, puisqu'il y a même des choses de la pièce qui viennent directement de l'Auton. C'est assez beau de voir ça. Et puis donc il y a les bombes qui sont lâchées sur Nagasaki, Hiroshima, et tout à coup il change complètement le message de la pièce. Il essaie de noircir, avec l'Auton d'ailleurs qui a vraiment envie lui-même de noircir la figure de Galilée. Ils font de Galilée une espèce de traître à la science, c'est-à-dire quelqu'un qui a, en se rétractant, abandonné la science dans les mains du pouvoir.
Il est vraiment question de responsabilité.
Couper complètement de l'idée de l'émancipation du peuple.
Fabien Charex, est-ce que cette pièce de Bertolt Brecht participe de la mythification, la légendarisation de Galilée?
Bah oui, je crois que c'était sans doute la pièce la plus achevée d'un processus qui a commencé dans d'autres territoires que celui du théâtre, chez Kant par exemple, dans la critique de la raison pure. Le nom de Galilée apparaît comme étant un de ces acteurs qui précisément, avec Copernic et d'autres géants, ont participé à la transformation du champ même du savoir. Donc effectivement, je pense que après Kant, d'autres ont suivi, hein, Alexandre Coiré,
Pierre-Louis
Husserl, il y a les marxistes. Donc la vision au fond de Brecht, c'est vrai, c'est frappant, c'est vrai que cette pièce parle beaucoup de Brecht, et en même temps, elle, en utilisant l'image de Galilée à l'usage contemporain, c'est très frappant effectivement, ces différentes versions successives, elle montre l'extraordinaire plasticité du personnage qui a pu être utilisé, manipulé, son nom même manipulé dans tout un tas de débats et de combats qui peut-être n'avaient pas grand-chose à voir, sauf par ricochet, avec ce dont il est question chez Galilée, mais qui ont instauré quand même une certaine manière pour nous de comprendre ce qu'est la science, comment elle se pratique. Et c'est vrai que les quelques paroles qu'on a entendues pourraient parfaitement être appliquées à la question de la recherche aujourd'hui, par exemple. Donc il y a beaucoup de motifs qu'on trouve dans l'œuvre de Galilée qui peuvent donner lieu à ce genre d'extension. Et c'est ce qui a été fait dans différents champs, dans différents domaines, tout au long du 18e, 19e et 20e siècle, effectivement.
Et la géographie, c'est ce qu'on apprend en vous lisant, Fabien Charex, commence avec Viviani, disciple de Galilée. Écoutez ce qu'en dit Jean-Yves Borriot, c'était en 2010 sur France Inter.
Il faut faire le départ entre ce qui relève de la géographie et ce qui relève de la réalité. La vie de Galilée, selon Viviani, c'est une vie exemplaire. Galilée, enfant, doit avoir montré déjà ce que va être son génie. Là, il faut quand même pas aller trop loin, on n'a évidemment aucun témoignage particulier à ce sujet-là. Mais simplement, il faut bien voir que dès les années de jeunesse, il se consacre à des problèmes techniques. Il y a notamment la bilancette, hein, la petite balance, la balance hydrostatique, le pulsilogium qui permettra ensuite à un ami médecin de Galilée de mesurer son pouls. Avec tout ça, il s'agit de petites réalisations techniques qui datent des années de Pise, mais des années où Galilée est étudiant. Mais pour ce qui est des inventions qui relèvent de l'enfance, tout cela appartient au genre géographique.
Et ce qui est très intéressant, si on regarde la jeunesse de Galilée, c'est qu'il était très proche de l'Église dans sa jeunesse.
C'était surtout un garnement très agité. Mais oui, à aucun moment on ne peut dire de Galilée qu'il s'est éloigné de l'Église. Certaines factions de l'Église se sont éloignées de ce qu'il a pu enseigner, alors que d'autres peut-être en étaient plus proches. Disons que la jeunesse de Galilée, c'est vrai, a fait l'objet dans le texte de Viviani d'un certain nombre d'arrangements, dont le plus frappant, ça n'a pas été mentionné dans l'extrait qu'on a entendu, c'est Galilée aurait découvert une propriété du mouvement des pendules en observant dans le Duomo de Pise le mouvement du lustre parfaitement régulier qui ne s'amortissait pas et qui effectuait des oscillations dans un même temps. Une découverte fondamentale pour la mesure du temps. mais une découverte qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu, puisque précisément il est établi, par exemple, qu'au moment où il aurait dû faire l'observation, en fait, tous ces dispositifs n'existaient pas dans la cathédrale de Pise. Donc il y a tout un tas de choses qui sont reconstruites, mais ce qui est intéressant dans le récit de Viviani, c'est que cette reconstruction a un sens, elle a un but, c'est-à-dire elle installe Galilée dans, je dirais, une suite logique de découvertes mécaniques qui explique les fondements de l'école galiléenne, c'est-à-dire ce que Viviani veut installer avec Torricelli, avec d'autres savants européens bientôt dans toute l'Europe. Je pense que l'apogée de cette école galiléenne, c'est 1650 à peu près, où les textes de Galilée sont traduits, relus dans toute l'Europe. C'est véritablement la tradition galiléenne telle qu'elle est instaurée, y compris dans la géographie, y compris dans le fantasme, à partir de tout ce que les Discorsi, le dernier travail de Galilée, nous montre, donc une certaine cohérence imposée, forcée dans l'histoire de Galilée, mais qui encore une fois a un sens. C'est faux, mais ça a du sens.
Alors on va parler plus précisément des recherches de Galilée sur le mouvement, et on va voir comment tout ça crée un ensemble avec ses observations astronomiques. On fait une pause avec David Bowie, Alabama Song, une chanson écrite à l'origine par Brecht.
Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. No, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. Or if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. It's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye.
Version très personnelle par David Bowie de la chanson Alabama Song, extraite de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Jean-François Sivadier, quel âge a Galilée quand on commence la pièce de Brecht ?
46 ans.
Donc il ne s'intéresse pas à la jeunesse au fond de Galilée ?
Non, il le prend, il commence son histoire au moment où il va découvrir la lunette. En fait, c'est ça qui l'intéresse. C'est comment découvrir les satellites de Jupiter, etc. Va le mettre dans un rapport avec l'Église de plus en plus complexe. Et voilà, il fait commencer son histoire.
Alors que pour bien comprendre l'histoire de Galilée, il faut replacer les choses dans une perspective globale et parler de ses recherches sur le mouvement qui sont absolument fondamentales, Fabien Charex.
Oui, c'est-à-dire que justement, la période qui précède tout juste l'entrée de Galilée dans la pièce de Brecht, c'est une période où s'accumulent les découvertes fondamentales dans le domaine de la mécanique. On le sait d'après un certain nombre de croquis retrouvés, de dessins retrouvés de Galilée, la loi de la chute des corps, effectivement la reprise de développement plus plus technique, on va dire, est destinée à améliorer la vie des citoyens sur des mouvements de pompe, etc. À Venise, on comprend pourquoi. Bref, Galilée s'était installé véritablement comme un professeur de mathématiques et de philosophie naturelle. Et de toute façon, les fils de ces différents moments de son œuvre, dont l'astronomie fait partie, mais qui constitue chez lui, en 1610, 1611, un argument pour pouvoir rentrer chez lui, tout simplement, pour pouvoir retrouver l'assise qu'il avait perdue, faute d'avoir su conserver, je dirais, son calme face à un prince. Tout ça ne nous sera donné véritablement que bien plus tard, dans le dialogue. C'est dans le dialogue que on comprend comment les principes de la mécanique sont aussi ceux qui nous permettent de comprendre le mouvement de l'univers, puisque on l'a dit, hein, Galilée a fait effectivement descendre le ciel dans la terre, précisément en contestant un certain nombre de principes fondamentaux de la mécanique, des mécaniques qu'il précédait, en particulier celle d'Aristote. C'est là qu'on comprend que la théorie mécanique rejoint l'astronomie, la précède logiquement, mais du point de vue de la lecture de l'ascension de Galilée et de du début de son rapport problématique à l'Église, évidemment, est éclipsé entièrement par la question de l'astronomie.
Voilà, donc Galilée veut contrer les recherches et la philosophie aristotélicienne. Écoutez de nouveau Jean-Yves Boriot, auteur de Galilée, l'Église contre la science.
Il va, sa vie durant, proclamer la fausseté des principes aristotéliciens, aussi bien en ce qui concerne le mouvement qu'en ce qui concerne l'organisation globale du monde. En ce qui concerne le mouvement, les raisonnements sont assez austères, mais il y a des expériences qui sont plutôt des vérifications, des démonstrations, comme celle de la chute des corps depuis le sommet de la tour de Pise. Alors ça c'est un véritable morceau de bravoure, puisque on lui prête différentes expériences avec des boulets, une balle, etc. Et il va donc là montrer que dans la même matière, ces deux éléments tombent à la même vitesse. Et ensuite, il va continuer avec l'histoire des corps flottants, un peu plus tard. Il va essayer de montrer pourquoi tel corps flotte et tel autre ne flotte pas. Et il va attaquer encore Aristote dans ses discours, si sa toute dernière œuvre.
Jean-François Sivadier, dans le spectacle La vie de Galilée, vous voulez montrer bien ces expériences.
C'est intéressant parce que justement, moi je suis fasciné quand j'entends parler comme ça. On s'est posé la question comment on allait représenter ces expériences. Et c'est marrant, on avait rencontré un ami comédien du Théâtre du Radeau qui avait fait des écrits de Galilée, ses livres de chevet, et qui connaissait par cœur toutes ces expériences et qui était venu à une répétition. Il nous avait, avec une louche, une casserole, tout ça, il nous avait expliqué toutes les expériences. On était totalement fascinés. Donc pour réaliser ces expériences sur le plateau, on s'est dit qu'il fallait que ça soit des expériences de théâtre et que ce serait là que ce serait le plus juste. La première expérience qui se passe dans la pièce, c'est donc Galilée qui décrit à Andrea, qui a 11 ans, un astrolabe qui représente le système de Ptolémée. En général, quand on monte la pièce, on construit un bel accessoire et Andrea décrit cet objet. Et alors déjà, il y a un problème technique, c'est que le public est très loin, il peut pas voir l'objet. Et il y a simplement on peut commencer à se dire bon, c'est dommage, on n'a pas révisé Galilée avant de venir, on n'est pas très intelligent. Voilà, nous ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre le public dans la tête d'Andrea, c'est-à-dire que le public est 11 ans au début de la pièce. C'est-à-dire que ça commence donc par Galilée qui fait un mime à Andrea et au spectateur et qui rentre progressivement dans la description du système de Ptolémée de façon extrêmement ludique. Voilà, et cette chose-là, c'était très important pour nous. Je sais plus ce que je voulais dire.
Mais en tout cas, ça permet aux spectateurs de rentrer de manière extrêmement concrète dans la pensée de Galilée.
Oui.
Jean-François Sivadier, on continue de parler de la manière dont vous représentez la vie de Galilée de Bertolt Brecht au Théâtre Montfort jusqu'au 21 juin. Fabien Charex, vous êtes l'auteur du mythe Galilée paru au PUF. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes sur RFI, juste après les informations.
Sophie Joubert.
Autour de la question, pourquoi le mythe Galilée, avec Fabien Charex, maître de conférence en philosophie à Paris-Sorbonne, et Jean-François Civadier, metteur en scène de la vie de Galilée de Bertolt Brecht, qui se joue en ce moment au Théâtre Montfort jusqu'au 21 juin. On va écouter un deuxième extrait de votre spectacle, Jean-François Civadier, Galilée, Dieu et les astres.
Donc, il n'y a que des astres. Et où est Dieu, alors ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Dieu ? Où est Dieu ?
Pas là-haut. Pas plus là-haut qu'on le trouverait sur la Terre, si là-haut existait des êtres et qu'ils le cherchent ici.
Et où donc est Dieu ?
Suis-je théologien ? Je suis mathématicien.
Avant tout, tu es un homme. Et je te demande, où est Dieu dans ton système du monde ?
En nous ou nulle part ?
Comme l'a dit celui qu'on a brûlé.
Comme l'a dit celui qu'on a brûlé.
C'est pour ça qu'on l'a brûlé.
Parce qu'il ne pouvait rien prouver.
Galilée ! Je t'ai toujours connu un homme rusé ! 17 ans à Padoue et 3 ans à Pise, tu as enseigné patiemment à des centaines d'élèves le système de Ptolémée prôné par l'Église et attesté par l'Écriture. Tu le tenais pour faux, mais tu l'as enseigné.
Parce que je ne pouvais rien prouver.
Et tu crois que ça fait une différence?
Toute la différence. Toute la différence, je crois en l'homme. Cela signifie que je crois en sa raison. Sans cette croyance, je n'aurais pas la force de me lever de mon lit le matin.
Alors je vais te dire quelque chose. Moi, je n'y crois pas.
Dieu entre dans la bataille et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Un mot sur ce personnage de Sagredo, Jean-François Civadier, l'ami vénitien de Galilée. Alors, joué ici par Éric Louis.
Il y a un Sagredo historique.
Bien sûr, oui.
Qui est celui qui converse
dans le dialogue.
Dans le dialogue, mais qui n'est pas forcément celui dont Brecht parle, mais enfin, c'est pas.
C'est théâtral aussi, donc.
Oui.
C'est très dialogué, effectivement.
C'est le premier à qui Galilée parle dans la pièce et lui montre ses découvertes, qu'il a pu observer la lune avec la lunette, et donc c'est son alter ego qui lui dit, peu importe ce que tu as découvert, le problème c'est qu'est-ce qui va se passer avec ça politiquement. Tu peux pas crier à l'aveugle comme ça, voilà, la raison, j'ai raison, j'ai trouvé la vérité, c'est pas comme ça que ça marche. Et Galilée lui dit, si, il faut que ça marche comme ça. Et dans la scène d'après, qui se passe à Florence, devant Côme de Médicis, qui a 9 ans, dans la scène, c'est une scène extraordinaire, parce que donc il y a deux il y a un mathématicien et un philosophe qui viennent de l'université, qui sont en face de la lunette et qui ne regardent pas dans la lunette. Qui disent, mais de toute façon, ça ne sert à rien de regarder par cet appareil, puisque ce qu'il y a sur la Terre ne peut pas être la même chose que ce qu'il y a au-dessus de la sphère de la Lune.
Alors, c'est très intéressant cette affaire de lunettes, parce que c'est à partir de là que la vision du monde va vraiment changer. Mais Galilée, et ça c'est très bien représenté dans la pièce de Brecht, fait croire qu'il est l'inventeur de la lunette, alors que les Flamands l'ont inventé avant lui et que c'est un instrument au fond assez répandu. Fabien Charex.
Oui, pas dans la version qu'il utilise. Effectivement, c'est un jouet au départ, quelque chose qu'il a vu arriver avec les marchands à Venise. Venise commerçait avec Europe entière. Et il a amélioré quand même le dispositif. Il était assez bon, Galilée, sur toutes les questions de dispositif d'observation, en particulier en astronomie, puisque quand il a fallu représenter les taches solaires, par exemple, il a inventé une manière de projeter les taches solaires sur un support, puis de les dessiner, qui aujourd'hui encore, si on met à bout les dessins, nous représente un véritable petit film du mouvement des taches solaires, tel qu'il donc les a observées pendant quelques mois. Donc, c'est vrai, ce n'est pas son invention, mais disons que l'utilisation qu'il en fait donne à la chose un brevet entièrement galiléen. C'est une chose que d'avoir un outil technique, c'est autre chose que de savoir comment faire pour lui faire dire ou voir des choses qui jusque-là n'étaient pas aperçues. Donc, il semble que...
Jean-François Civadier, la scénographie que vous avez choisie est un plan incliné en bois. Est-ce que c'est une référence directe aux travaux de Galilée ?
Alors,
qui s'ouvre avec des trappes sous lesquelles les instruments se...
On a été très soulagés le jour où c'est Nicolas Bouchot d'ailleurs qui a eu cette idée. On s'est dit, mais voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a un d'incontournable comme outil pour raconter le théâtre de Brecht, c'est un plateau de théâtre. Qu'est-ce qu'il y a d'incontournable comme outil pour raconter la vie de Galilée? C'est la lunette. Donc on va dire que le plateau du théâtre, c'est la lunette. Voilà. Et donc, c'est parti aussi de l'idée que dans cette scène où Sagredo et Galilée observent les satellites de Jupiter, on voulait absolument pas être illustratif en montrant les deux acteurs en train de regarder par une fausse lunette le plafond du théâtre. Mais on s'est dit que ce qui leur arrivait à ce moment-là, Galilée et Sagredo, c'était... Ils étaient totalement exposés, comme quand on regarde le ciel, il y avait un rapport à leur intimité. Ils étaient eux-mêmes... Ce qui était intéressant, c'est de voir leur visage... et ce qui leur arrivait plutôt que ce qu'ils voyaient réellement et que le public devait imaginer ce qu'ils étaient en train de voir. Et donc c'était comme quand on regarde le ciel, on peut se sentir comme Dieu ou totalement à nu, exactement comme un acteur sur un plateau de théâtre. En revanche, le moment où justement à la scène de Florence, le mathématicien et le philosophe refusent de regarder dans la lunette, là justement on en a fait un accessoire qui ne sert à rien du tout justement.
Alors Galilée se convertit à l'héliocentrisme dans les pas de Copernic, et à ce moment-là deux conceptions du monde vont s'opposer. Écoutez ce qu'en dit Hubert Reeves.
Au lieu de prendre comme centre de calcul la Terre, on prend le Soleil. Et ça, on le sait bien parce qu'on sait depuis déjà longtemps que les mouvements des planètes, qui sont compliqués quand on les regarde de la Terre, par exemple Jupiter, Saturne, ont le mauvais goût de faire ce qu'on appelle avoir un mouvement rétrograde. Si vous les regardez dans le ciel pendant l'été, vous voyez qu'ils avancent parmi les étoiles, puis tout d'un coup, ils font un petit pas vers l'arrière, comme un petit pas de danse, et puis ils repartent en avant. Et tout ça, ça complique singulièrement la vie. Et déjà, on a l'idée que peut-être cela est dû au fait qu'on est placé sur la Terre et que si on changeait de point d'observation, on aurait peut-être des mouvements plus simples. Et c'est là toute la philosophie qui est sous-jacente à Copernic et à Galilée, c'est que les mouvements terrestres, les mouvements des planètes sont beaucoup plus simples si on se place pour les étudier sur le Soleil plutôt que sur la Terre. Donc ça se présente au début comme quelque chose de plus simple. Et ça n'est que progressivement qu'on prend compte du fait qu'il n'y a pas qu'une addition de simplicité et de commodité, mais qu'il y a sous-jacent, quand on y réfléchit, tout un mode de pensée qui est remis en question. Et ce mode de pensée, c'est bien sûr, eh bien, si on ne prend plus la Terre comme centre des calculs, c'est peut-être parce qu'on va remettre de côté l'idée que la Terre est le centre du monde, et qu'on va passer de ce géocentrisme à un héliocentrisme, et puis plus tard, encore autrement, dans le cadre de l'astrophysique.
Voilà, la Terre n'est plus le centre du monde, l'homme n'est plus le centre du monde, et ça c'est problématique pour l'Église, Fabien Charex. Mais au fond, cette hypothèse héliocentriste, elle avait déjà été énoncée par le grec Aristarque de Samos.
Absolument, par d'autres encore. L'Antiquité a connu, avant la chape de plomb déposée par, disons, le travail extrêmement cohérent de Ptolémée, l'Antiquité a connu tout un tas de systèmes astronomiques, une Terre, une antiterre, vous avez les travaux de Philolaos, des pythagoriciens en général. Effectivement, pour les Grecs, l'astronomie était une question mathématique avant tout. Puisque si on dans la philosophie grecque, si on allait jusqu'à interroger la nature des astres, on tombait dans la théologie. En revanche, les mouvements des astres, c'est clairement identifié comme une question de géométrie, et ça a été réglé dans les termes de géométrie qui sont rappelés par Hubert Reeves, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle l'équivalence des hypothèses. Si vous mettez le point d'observation fixe sur la Terre, vous avez un certain nombre de mouvements à décrire, avec des complications qui sont illustrées par le travail de Dox sur les sphères homocentriques, avec les mouvements qui permettent d'ajuster, etc. Un travail extrêmement mathématique dont l'achèvement se fera dans le traité de Ptolémée, avec des petits problèmes quand même, des contradictions, des choses qui ne correspondent pas tout à fait aux observations, mais qui quand même en rendent raison, et ça a tenu quand même quelques siècles, cette histoire. En revanche, si comme d'autres, vous avez la hardiesse de vous dire, eh bien, mettons le point fixe de notre description mathématique dans le Soleil, à ce moment-là, effectivement, certaines choses se simplifient, d'autres se simplifient moins. Et il a fallu après, je dirais, pour acquérir une conviction définitive, même si on n'avait pas de preuves, parce que c'est tout ce qui manque à Galilée, comme aux autres physiciens de l'époque, ce sont des preuves physiques, il a fallu en fait que d'autres outils mathématiques convergent. Et c'est là qu'interviennent des travaux tout à fait différents, tels que ceux de Kepler, par exemple, repris par Newton plus tard, des travaux sur la dynamique des trajectoires planétaires. Et les lois de Kepler sont là pour convergent en quelque sorte avec l'intuition copernicienne, l'intuition galiléenne qui n'était que des intuitions. On parle même au milieu du XVIIe siècle de foi coperniciste. On y croit, on n'y croit pas. Voilà. Donc c'est assez intéressant.
Mais au fond, est-ce que c'est vraiment la conversion de Galilée au copernicisme qui pose problème à l'Inquisition ?
Vaste question, vaste problème. Je pense que ça pose un problème sur le type d'enseignement qui se fait dans le modèle dominant de l'enseignement de l'époque, c'est-à-dire l'enseignement des jésuites dans les collèges. Il faut savoir être très prudent sur ce qu'on enseigne. Il y a des échappées ici et là. Vous avez Descartes qui va vouloir écrire son propre manuel de philosophie. Vous avez tout un bouillonnement d'idées qu'il faut tenter de contrôler dans un contexte de contre-réforme où la prédominance de l'Église catholique en particulier doit être réaffirmé. Il y a eu le concile de Trente, il y a eu des choses. Bon. Donc ça veut dire, pour en revenir à cette question, c'est l'idée, si ce n'est qu'une idée, une hypothèse, l'idée copernicienne n'était pas extrêmement dangereuse au milieu du XVIIe siècle. Si on doit y accoler d'autres choses qu'un simple système astronomique, alors là, oui, effectivement, à cette question, j'ajoute aussi ce qu'il faut jamais négliger, la question de l'imperium intellectuel. Un enseignement qui était jusque-là était géocentré ne peut pas, d'un coup d'un seul, transformer tous ses outils, d'autant plus que des questions de système du monde aussi s'ajoutent à cela. Donc c'était une question difficile, sans être nécessairement mortel pour Galilée. À l'époque où on l'a condamné, peut-être vous voulez en venir là aussi, on l'a peut-être condamné à cette peine-là pour éviter de le condamner à d'autres peines moins sympathiques.
Voilà, peut-être que le cardinal Barberini, futur pape Urbain VIII, a été finalement dans toute cette histoire une espèce d'allié. On va en reparler. Je voudrais vous faire écouter un éclairage intéressant concernant précisément l'affaire Galilée, le procès Galilée. C'est celui de Pierre Lévy, philosophe. Il parle de Galilée metteur en scène. C'était sur France Culture en 1990.
L'affaire Galilée est un spectacle. Un des épisodes les plus célèbres de l'affaire Galilée, qui est le procès de Galilée, est lui-même extrêmement théâtral. Et d'autre part, je dirais que le metteur en scène de ce procès, ça n'a pas seulement été l'Inquisition, le cardinal Bellarmin, le pape, mais ça a été également Galilée lui-même. Je pense que bon, le procès a lieu en 1633. En 1632, Galilée publie son dialogue dans lequel il met en scène le procès qui va avoir lieu en 1633, puisqu'il se confronte lui-même sous les traits de Salviati aux aristotéliciens, à l'Église, aux traditionalistes, disons, qui sont dépeints par Simplicius. Et au cours de ce dialogue, qui est lui-même très théâtral, très imagé, très dialogué, il réussit à battre à plate couture les traditionalistes, les aristotéliciens, les dogmatiques de l'Église. Bon. Et puis, ce qui va se passer en 1633, c'est que l'Église n'ayant pu, dans le dialogue, vaincre par des arguments, par la raison, par des faits, eh bien, va battre Galilée par la force, par la contrainte.
Jean-François Sibadier, ce qui est très intéressant dans la pièce de Brecht, La vie de Galilée, c'est que le procès est hors champ en réalité.
Oui. Oui, parce que toute la pièce, en fait, c'est comme une pièce de coulisses. C'est les coulisses de la grande histoire, en fait. Et on le voit surtout dans toutes les scènes qui sont très importantes. Par exemple, la scène où il rencontre Bellarmin et Barberini dans
les cardinaux.
Dans les cardinaux, se passe dans un grand bal à Rome, dans une arrière-salle. Enfin, voilà. Il y a pas de rencontre entre l'inquisiteur et Galilée, l'inquisiteur parle au pape pendant que le pape se fait habiller, etc. C'est toujours des scènes qui sont à côté de la grande histoire, particulièrement la scène du procès où donc après tout c'est une chose très importante historiquement, le procès. Ben Brecht choisit de nous montrer les gens qui attendent le résultat du procès, c'est-à-dire ses disciples, sa fille, plutôt que le procès lui-même.
Donc ça veut dire que c'est plus l'humain qui l'intéresse.
C'est plus l'humain, et puis c'est un effet dramatique, c'est un effet de théâtre extraordinaire.
Fabien Charest, comment entendez-vous cet éclairage qui dit que Galilée était au fond un metteur en scène, et notamment lors de son procès?
J'ai peur de ne pas être tout à fait d'accord.
Mais vous avez le droit.
Parce que ce qui se passe...
En tout cas, c'était un polémiste quand même. Il aimait la bagarre.
Non, sur l'aspect théâtral du dialogue, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est d'ailleurs ce qui fera la différence avec les Discorsi de 1638, qui aura aussi une structure dialoguée, mais qui sera beaucoup moins théâtrale. Où on va passer beaucoup plus directement aux démonstrations physiques et mathématiques. En revanche, en 1632, Galilée sort quand même d'un certain nombre d'années de combats. Il a quand même écrit lui-même l'Essayeur, qui est un texte dans lequel il glisse un certain nombre de considérations sur sa méthode en philosophie, sur ce qu'il croit être la manière dont les éléments de la nature sont composés. Enfin, c'est le texte sans doute le plus philosophique de Galilée. Il y a toute une série de lettres, hein, les lettres dites coperniciennes, qui ont été publiées à plusieurs reprises, dans lesquelles il défend, pour le coup, de manière véhémente. Donc, il se met en scène, mais il met en scène cette colère. Parfois, il ose écrire à des puissants, Christine de Lorraine, des choses qui auraient pu faire frissonner quand même. Les chines de pas mal de gens. Son courage, en fait, se manifeste avant le dialogue. Et donc, quand on arrive à la rédaction du dialogue, oui, c'est tout ça qu'il met en scène. Certainement pas un procès à venir. Lui, je pense qu'à un certain moment, Galilée s'estimait même peut-être protégé. Il a quand même l'imprimatur. Le dialogue n'est pas
protégé par sa réputation.
Par sa réputation, intouchable, à la limite.
Et puis par ce pape
qui était cardinal et qui est devenu pape, qui aime la science, qui aime Galilée. Donc je pense que la nouvelle même du procès, c'est la victoire d'une certaine faction de l'Église qui a commencé à se manifester par des sermons de plus en plus violents et qui en plus attaquait Galilée de manière très latérale en disant que si on admet le système héliocentrique, alors à ce moment-là, certains écrits bibliques ne sont plus, ne peuvent plus être enseignés tels qu'ils le sont. Donc c'est, vous voyez,
l'hérésie... C'est politique au fond.
Oui, je pense que là, pour le coup, on a monté contre Galilée, et donc il a vécu tout ça, on a monté contre lui dans ce qui est le média de l'époque, c'est-à-dire le sermon, on a monté une histoire qui ne touche pas lui seul en propre, je dirais, la question de la nature de ce que l'on dit en astronomie, ça n'est pas une affaire purement ou simplement galiléenne. Ce qui pose problème, c'est la renommée de celui qui le dit, et donc le potentiel danger de voir ces enseignements se diffuser sans aucune limite, précisément parce que les bons mathématiciens, les bons astronomes de l'époque, les jésuites, de toute manière, pour beaucoup, l'enseignaient déjà au titre d'une hypothèse. La question est, est-ce qu'on en fait une hypothèse ou pas? Or, le dialogue dit clairement les choses, et c'est là où Galilée est allé trop loin, à mon sens. Enfin, si on veut comprendre la suite des événements, il dit oui, ça doit être une hypothèse, et puis il déploie tous les arguments possibles imaginables pour montrer que ça n'en est pas une. Et le sommet de ce point de vue-là du dialogue, c'est la théorie des marées, dans lequel, pour le coup, si on s'attache à donner quelques vérités à ce que Galilée en dit, c'est la seule théorie qui est capable d'engendrer des effets physiques mesurables du mouvement de la Terre. Pour le reste, sinon, c'est l'équivalence d'hypothèse, c'est le principe de relativité, ça ne donne pas de preuves physiques. La seule chose qui pourrait donner des preuves physiques, ce serait de pouvoir accorder quelques vérités mesurables à la théorie des marées. C'est le double mouvement de la Terre engendrerait des différences de coefficients de marée, et c'est un effet en fait qui existe. Même si on sait aujourd'hui que les marées sont engendrées par d'autres forces, en fait l'effet qui est annoncé par Galilée est un effet qui existe. Alors beaucoup de collègues se sont lancés depuis longtemps dans des expérimentations pour mettre cela en évidence, mais je crois que c'est vraiment le point d'orgue du dialogue, de dire oui c'est juste un enseignement, c'est une hypothèse, mais de déployer tous les arguments pour accomplir le programme qui était fixé dès la première ligne du dialogue, c'est-à-dire détruire la philosophie, la physique même d'Aristote.
Autour de la question « Pourquoi le mythe Galilée ?», on continue notre discussion juste après un extrait du Stabat Mater de Pergolèse, une des musiques qui illustre votre spectacle, Jean-François Civadier. Le Stabat Mater de Pergolèse, dirigé par Fabio Biondi, interprété par Dorothea Rochman et David Daniels. Jean-François Sivadier, Fabien Charex ont parlé à l'instant du procès de Galilée. La dernière partie de la pièce de Brecht s'intéresse à l'écriture des discours, des discorsi, alors que Galilée est assigné à résidence chez lui, non loin de ses filles qui sont au couvent. Et vous le représentez, Jean-François Sivadier, avec une espèce de boulet au pied, enfin une sphère en fait, hein, la terre accrochée à son pied par une corde.
On sait qu'on s'est dit que la résidence surveillée qu'il lui offrait dans la pièce, c'était un décor pour la première fois, qu'il y avait un vrai décor dans le spectacle. Et il y avait un ciel bleu au fond totalement minable, puisque c'est une bâche bleue, et qu'il avait, qui lui restait avec lui comme un jouet, comme un yo-yo, un hochet. Plutôt ce ballon, cette terre, voilà, comme un, il n'y avait plus que ça, et qu'il était nu sous son manteau avec justement les discorsi autour de la taille.
Fabien Charex, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière partie de sa vie, il est assigné à résidence, mais il peut quand même, on lui laisse la possibilité d'écrire ce qui est son œuvre majeure, peut-être.
Ah oui, mais tout le monde ne sait pas qu'il écrit, sa fille lui rend visite parce qu'elle est dans un couvent pas très loin d'Arcetri, là où il est sur les hauteurs de Florence. Mais non, les chapitres des discorsi ont été envoyés sous le manteau, alors avec une certaine bienveillance, mais ça a été publié, contrairement au dialogue, ça a été publié en Hollande.
À l'étranger, donc.
Voilà, donc en Hollande surtout, c'est-à-dire le pays qui publiait des cartes, le pays qui on va dire que c'était une résidence vraiment surveillée, et que tout le monde n'a peut-être pas été conscient de ce qui est en train de se jouer. L'ouvrage des discorsi, il faut quand même le dire, étant par son objet propre beaucoup moins sulfureux en tant que tel, hein, que le dialogue, puisque il n'est question que de mécanique. Alors si on relit les choses, il est question de mécanique et du reste, mais on peut le lire aussi comme le premier ouvrage de physique mathématique qui a vraiment été écrit et qui va influencer durablement la suite de la physique.
Je voulais vous faire entendre la voix d'Antoine Vitesse qui a monté en 1989 La vie de Galilée. Je pense qu'on n'a pas le temps, mais en substance, Vitesse faisait la relation entre La vie de Galilée et Le Faust de Goethe, Jean-François Sivadier.
Alors, j'ai jamais pensé à Faust, je crois. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais Faust...
Voilà, Vitesse disait que Brecht avait pensé toute sa vie au Faust de Goethe. Et puis, alors, il disait comme vous aussi que Brecht parlait de lui dans cette pièce, et puis il parlait aussi du communisme.
Oui, ben c'est sûr, c'est une pièce qui est presque à certains moments comme un journal intime de Brecht. Il y a une chose incroyable à un moment donné dans la pièce où Galilée donc est devant Comte de Médicis qui ne refuse de prendre les dialogues sur les deux plus grands systèmes du monde, et Galilée comprend que ça va chauffer et il décide de partir avant qu'il soit arrêté. Enfin, il essaie de partir rapidement, et ça fait directement penser à Brecht devant le tribunal des activités anti-américaines où il a été interrogé aux États-Unis. Il avait au moment de son interrogatoire directement un billet pour Zurich dans la poche. Donc à plusieurs moments dans la pièce, vraiment la figure de Galilée et celle de Brecht se confondent totalement.
Un mot peut-être, Fabien Charex, de la réhabilitation de Galilée par l'Église dans les années 80.
Oui, mieux vaut tard que jamais. Disons que dans le contexte, encore une fois, c'est La vie de Galilée épouse très exactement les évolutions de la doctrine catholique elle-même. Il naît en 1564, au moment où s'achève le Concile de Trente. Vatican II intervient, il y a sa réhabilitation. Je pense que ça n'est pas très important, puisque la science avait déjà réhabilité depuis longtemps, et l'opinion aussi, les travaux de Galilée.
Merci à tous les deux. La vie de Galilée se joue au Montfort Théâtre à Paris jusqu'au 21 juin. Votre livre, Fabien Charex, est publié au PUF. Merci à Cécile Bonici et Guillaume Munier pour la réalisation. À bientôt.